France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir, au lendemain du premier tour des élections législatives, si les sondages avaient anticipé le résultat d'hier soir, ces législatives, dans le sillage de la présidentielle, sont absolument inédites. Le parti du président vise une majorité colossale, la gauche est laminée, le FN affaibli, le parti Les Républicains en recul sur 5 ans. Ajoutez à cela une abstention de plus de 50% et vous obtenez le moment historique dans lequel la France se trouve. Toutes vos questions, amis auditeurs, jusqu'à 20h dans cette édition spéciale du Téléphone Sonne.
Nicolas Demorand, le Téléphone Sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr pour le courrier électronique, 01 45 24 7000 pour le standard où nous attend Jeanne. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et bonsoir à tous vos invités.
Nous vous écoutons, Jeanne.
Oui, alors, je pense que vous en avez parlé lors des journaux, hein, mais je pense que le principal enseignement, c'est quand même le nombre considérable d'abstentionnistes. Et je me demande quand même, moi personnellement, et je voudrais savoir ce qu'en pensent vos invités, on parle beaucoup de triomphe du mouvement En Marche, mais ce triomphe-là, en fait, se résume à peu près 15%, si je calcule bien, du corps électoral. Ça fait pas beaucoup. Et je me demande jusqu'à quel point ces tout petits 15% représentent une base électorale suffisante pour que le mouvement En Marche puisse faire passer les réformes qu'il veut faire passer. Et je précisais à votre collaborateur que je me suis jamais abstenue depuis le début de ma carrière électorale, et je le ferai dimanche prochain. Donc je pense que le nombre d'abstentions risque d'être encore plus important au deuxième tour qu'il ne l'a été au premier.
Merci beaucoup, Jeanne, voilà, pour cette question d'ouverture. Pour vous répondre ici en studio à Paris, Céline Braconnier, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste donc de l'abstention. Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service politique d'Inter. Françoise Fressos, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique au Monde et en duplex depuis les studios de France Bleu Nord. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, qui veut répondre à Jeanne? Abstention majeure, on va commencer par là, Céline Braconnier, et 15% du corps électoral pour ceux qui vont rafler 400 sièges peut-être à l'Assemblée nationale.
Oui, abstention record, historique, on est à plus de 8 points supplémentaires par rapport à une abstention qui était déjà un record historique pour les dernières législatives, donc c'est d'une ampleur sans précédent cette démobilisation. Je rappelle que pour avoir une idée plus complète, il faut rappeler qu'on a 11% de non-inscrits, hein, plus de 6 millions de non-inscrits cette année, qu'il faut ajouter à ceux qui ne sont pas allés voter. Donc effectivement, il y a beaucoup moins d'un citoyen sur deux qui a participé dimanche à ce premier tour d'élection législative. Alors, ça a forcément un impact en termes de légitimité, bien évidemment. Il faut quand même attendre le second tour. Là, évidemment, quand on regarde les scores de premier, en moyenne, 32% des suffrages exprimés pour les candidats de La République En Marche, ça fait effectivement 15% des inscrits. À l'issue du second tour, on s'attend quand même à un pourcentage d'inscrits un peu plus élevé, puisqu'on aura plus que deux candidats, puisque ça va être généralisé ces duels du second tour. Maintenant, il faudrait pas qu'il y ait un niveau d'abstention très supérieur à celui qu'on a enregistré ce dimanche-là. Ça reste la règle, hein, depuis 3 législatives, que le deuxième tour soit un peu plus marqué en abstention que le premier. On a 2-3 points de plus. Au-delà, ça poserait vraiment véritablement un problème de légitimité. Pour avoir un point de repère, lors des dernières élections municipales en 2014, on a eu un fort taux d'abstention, mais qui aujourd'hui, comparé à celui qu'on a enregistré aux législatives, est très très contenu, hein, puisqu'on avait une abstention de 37-38% à ces élections municipales. Et quand on rapporte les résultats de ces élections en pourcentage des inscrits, on s'aperçoit que la base électorale des maires, c'est 42%. Donc en 2014, la base électorale des maires, c'est 42% des inscrits. Si on change un peu d'échelle, on regarde les grandes villes, dans les 162 plus grandes villes de 100 000 habitants, on tombe à 25% des inscrits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les maires des grandes villes ont une légitimité qui est quand même très limitée, puisqu'ils ont été élus par 25% des inscrits. En deçà, ça poserait un vrai problème de légitimité, parce qu'il y aurait une très grande majorité des citoyens qui n'auraient pas participé au choix, tout simplement.
Donc là, ça n'est pas simplement, à vous entendre, Céline Braconnier, une abstention particulièrement élevée, on entre dans autre chose.
On entre dans autre chose, qui questionne notre démocratie. Bien sûr, le fonctionnement de la démocratie, bien sûr.
Françoise Fressoz.
Trois éléments peut-être pour relativiser. La montée de l'abstention législative, elle est constante depuis 2002, c'est-à-dire depuis la décision prise conjointement par Lionel Jospin et par Jacques Chirac d'inverser l'ordre des scrutins et de faire en sorte que la présidentielle arrive avant la législative. Donc la législative a été en quelque sorte délégitimée, c'était un peu la confirmation de la présidentielle. Deuxième chose, quand il y a eu ce record d'abstention à la dernière élection législative, j'ai pas entendu dans l'hémicycle, une fois que l'élection a été faite, qu'il y ait eu un problème de légitimité pour la gauche qui avait été élue.
C'est-à-dire un procès en illégitimité.
Ben voilà, c'est-à-dire que au moment où ça arrive, tout le monde s'affole en disant on s'abstient beaucoup, puis après le procès s'arrête et finalement il n'y a pas eu de procès en légitimité contre François Hollande et contre la gauche élue. Et puis la dernière chose, moi qui me frappe, c'est que si les Français avaient voulu se mobiliser pour contrer Emmanuel Macron, ils auraient pu le faire. Or, on voit bien que l'abstention, elle pénalise les opposants à Emmanuel Macron. C'est comme si les Français s'étaient dit, oh ben finalement, on va peut-être lui laisser sa chance. Donc, c'est peut-être une abstention positive en faveur de Macron qui, du coup, contrebalance le procès en disant, il a que 15% des voix et il est illégitime.
Que pensez-vous, Céline Braconnier, de cette idée d'une nouvelle forme d'abstention participative positive?
Non, moi, j'y crois pas beaucoup. Elle me convainc pas beaucoup. Elle me
un peu d'optimisme.
Oui, oui.
Non, je pense que l'abstention, le fait de ne pas se déplacer, ça n'est ni un marqueur de rejet, parce que quand il y a rejet, il y a expression politique, on va vers les urnes pour dire un refus, ni expression d'un soutien détourné. Je pense que ça dit le scepticisme, le désenchantement, le découragement. Là, on était face à une élection qui était déjà en partie annoncée comme jouée, donc il n'y avait plus vraiment de raison de se mobiliser. Et puis, on est aussi dans une dynamique, vous avez raison de le rappeler, qui est classique quand on a une législative à un mois d'une présidentielle, c'est que les électorats des perdants à la présidentielle sont très découragés, très, très démobilisés. Mais on y reviendra. On a plein d'indicateurs qui montrent que là, cette abstention, elle a été record et elle n'a pas touché n'importe qui. Elle ne s'est pas amplifiée dans n'importe quel territoire. Et il y a des déterminants sociaux très, très, très forts qui se sont accentués et qui ont affecté notamment l'électorat, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon et du Front National.
Est-ce que le fameux facteur différentiel a joué, c'est-à-dire que beaucoup d'électeurs ne sont pas allés voter pour les uns et les autres, ce qui fait que la mobilisation des électeurs pour La République En Marche conduit au résultat colossal avec un effet de levier et de démultiplication sidérant.
Oui. L'ampleur de cette abstention est le résultat d'un cumul de facteurs sociologiques et politiques, mais du côté des facteurs politiques, c'est évidemment l'élément essentiel. Les seuls mobilisés, vraiment motivés, c'était les électeurs d'Emmanuel Macron. Donc, les 15% d'inscrits qui se sont déplacés sont des électeurs qui adhèrent à son projet et qui l'ont montré en allant voter. Il y a cet élément-là. Mais de là à dire l'abstention serait une forme de chance laissée à Emmanuel Macron,
je ne dis pas ça, mais
Françoise, défendez votre analyse.
Mais souvenez-vous des slogans de la campagne du deuxième tour. François Baroin, on va imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, on va faire la peau au Parti Socialiste, donc il faut se mobiliser. Et Marine Le Pen, je vais être la seule voix d'opposition au sein du Parlement, il me faut donner un groupe. Pourquoi cet électorat-là, qui pouvait prétendre à avoir un groupe, ne s'est pas mobilisé? Voilà la question.
Oui, alors Karine Bécard, le temps que Céline Braconnier reprenne son souffle, et puis on ira voir Rémi Lefebvre à Lille.
Là, on a les yeux complètement tournés sur ce qu'on vient de vivre, évidemment, le premier tour des élections législatives, et donc ce fort taux d'abstention. Rappelons-nous aussi, parce que c'est vraiment pas très loin, le très fort taux de blanc, nul et abstention du deuxième tour de l'élection présidentielle. On a quand même 16 millions de Français qui se sont pas du tout prononcés. Quand on met tout ça bout à bout, ça donne quand même ce sentiment que une partie, effectivement, segment de l'électorat n'a pas envie, ne sait pas se prononcer sur Emmanuel Macron. Il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Braconnier, cet élan, l'envie vraiment d'y participer, mais manifestement, il y a des gens qui ne savent pas, qui ont juste envie de dire, on va voir, c'est-à-dire on participe pas, c'est-à-dire on n'est pas méchant, on se braque pas, on n'empêche pas, mais je demande à voir, quoi. Un coup de poker.
Oui. Céline Braconnier.
Oui, alors il y a plein de choses à dire. Il y a surtout un effet aussi de l'incompréhension du rôle du Parlement. C'est pourquoi on irait se déplacer, puisque de toute façon, c'est pas notre candidat qui a gagné et qu'on sait pas trop à quoi vont servir les députés et que de toute façon, c'est déjà joué. Donc il y a cette espèce d'attitude un peu d'observation désenchantée, mais qui est pas ni de l'adhésion ni de.
Il y a des gens qui s'interrogent sur ce qu'il est Macron. Pour le peu qu'ils en aient vu là, ils trouvent ça plutôt intéressant, mais en même temps de là à donner un blanc-seing, ils n'ont pas encore envie. Quoi.
Enfin, il fait aussi peur, mais c'est vrai qu'il est pas, il fait pas suffisamment peur pour mobiliser contre lui. Et c'est la raison pour laquelle l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, notamment, c'est très démobilisé. C'est un électorat qui sociologiquement est beaucoup plus populaire et beaucoup plus jeune que l'électorat d'Emmanuel Macron, donc de toute façon qui a du mal à se mobiliser pour une législative. Hein, c'est là où les perspectives, la mise en perspective historique est très importante. Il faut bien dire que cet électorat-là se démobilise très largement après la présidentielle. C'était déjà le cas en 2012. Mais là, ça a été amplifié parce que le fait de se retrouver devant une élection déjà jouée avec Emmanuel Macron déjà gagnant et qui fait pas suffisamment peur, même si certaines des mesures, notamment concernant sa réforme du Code du Travail, suscitent beaucoup d'appréhension dans les milieux populaires, explique que on se soit pas déplacé, on comprend pas non plus le rôle des députés.
La parole au Standard d'Inter à Gérard. Bonsoir, bienvenue dans ce téléphone sonne.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
J'ai été étonné hier soir, enfin à la soirée, d'entendre aucune explication sur ce qui paraissait l'un des éléments essentiels du scrutin, à savoir l'abstentionnisme et son importance. Je pense, pour avoir vu dans un village où je vote le nombre des bulletins, le nombre des professions de foi, etc., sans parler du nombre des programmes, je pense que c'était demander un travail énorme aux Français que de se pencher sur 12 ou 14 bulletins ou 14 positions différentes.
C'est vrai que l'offre politique, vous avez tout à fait raison Gérard, était absolument pléthorique. Est-ce que ça peut jouer dans l'abstention? Je transmets la question à Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, à l'évidence, il y a plein de choses qui ont déjà été dites par vos invités sur l'abstention. Je pense que le coût d'entrée dans cette élection était très très élevé pour un certain nombre d'électeurs pas très très politisés. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de candidats, il y avait une offre politique à gauche qui était particulièrement confuse, avec des candidats socialistes qui développaient des points de vue vis-à-vis d'Emmanuel Macron très différents selon la circonscription. Il y avait beaucoup plus de candidats de gauche qu'à l'élection présidentielle. Il y a eu énormément de candidats qui ont essayé dans cette fenêtre d'opportunité de la société civile de présenter des candidats de partis qui voulaient se faire financer, et donc les électeurs ont vu arriver, quand ils ont eu les professions de foi, énormément de textes à lire. Ils ont l'impression d'avoir voté déjà beaucoup de fois, alors c'est vrai que tous les gens n'ont pas participé aux primaires, c'est seulement les électeurs les plus politisés, mais il y a l'impression finalement d'un bégaiement électoral, d'une espèce de redondance, et il y a un certain nombre d'électeurs qui ne se sont pas déplacés. Alors évidemment, il y a l'abstentionnisme différentiel, le fait que finalement, aujourd'hui, de plus en plus, on le sait très bien, et Céline Braconnier l'a montré dans ses travaux, c'est le fait de ne pas mobiliser son camp qui explique la défaite, beaucoup plus que la victoire du camp d'en face. Et donc, on est dans une situation où cette victoire, il faut le dire, je suis d'accord avec Jeanne, puisque j'ai pas pu m'exprimer tout à l'heure suite à son intervention.
C'est le moment de faire une revendication catégorielle, Rémi Lefebvre.
Voilà, c'est une
vous aviez
c'est cette élection.
Fallait être là, hein.
Il va y avoir un tsunami d'élus, mais il n'y a pas eu un tsunami d'électeurs, hein, pour reprendre cette métaphore qui fait florès depuis hier soir, parce que concrètement, on a l'impression finalement que la crise démocratique trouve une solution provisoire dans l'approfondissement de ses tendances, c'est-à-dire l'hyper-présidentialisation, l'abstention, la démobilisation. Et moi, je me dis, mais ces électeurs-là qui ne se sentent pas représentés, ils entendent depuis hier soir cette victoire sans précédent d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Est-ce qu'il n'y a pas une offense démocratique dans ce système électoral qui produit de moins en moins de légitimité? Au fond, finalement, la légitimité de ce cycle électoral, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, où il y avait quatre blocs quasiment identiques, hein, autour de 20%, très polarisés, hein, Mélenchon et la gauche, En Marche, la droite, l'extrême droite. Et au bout du compte, on risque d'avoir une chambre très, très monocolore. Et donc, on a un système électoral de moins en moins représentatif, qui produit de moins en moins de légitimité, alors même que la tâche des gouvernements est de plus en plus difficile. Et donc, évidemment, on peut s'interroger sur ce qui nous attend dans les mois à venir. Hein. On parle beaucoup du caractère fédérateur de l'offre Macron, mais enfin, force est de constater que En Marche prétend rassembler des catégories sociales différentes et n'obtient que 15% des inscrits à l'élection législative et 23% au premier tour de l'élection présidentielle.
Mais les électeurs n'ont qu'à voter, Rémi Lefebvre.
Oui, les électeurs, s'ils veulent se sentir,
s'ils veulent se sentir représentés, l'offre, on peut le dire, elle était pléthorique. Il y avait parfois 20-25 candidats dans chacune des circonscriptions. Donc, je comprends votre analyse sur le fait qu'on peut se sentir exclu de ce qui est décrit comme une victoire, mais si on ne veut pas se sentir exclu, on n'a qu'à aller voter. Enfin, c'est fait pour ça le vote, non ?
Je n'excuse pas évidemment les électeurs, mais il y a quand même des règles du jeu électoral, c'est-à-dire qui sont anticipées. Il y a aussi un effet de la chape de plomb médiatique. Depuis 15 jours, on entend que Emmanuel Macron va obtenir une majorité. Hein, hier, je me dis, un électeur pas très politisé qui écoute les élections hier, il a l'impression que les députés sont déjà élus. Donc il y a une espèce aussi de... Par ce discours prophétique permanent des sondages, il y a une espèce... On fait le match avant le match. Je pense que ça puisse les effets déformants du mode de scrutin. François Fressoz, tout à l'heure, disait qu'on n'avait pas parlé de ça en 2012. Moi, je me souviens d'une tribune de Gérard Courtois dans Le Monde où il parlait justement des illusions d'optique de la chambre socialiste qui avait été élue. Donc, à chaque fois, on pointe les mêmes erreurs. Et pourtant, la proportionnelle n'est jamais instillée, voire même adoptée pour plus de pluralisme dans la représentation nationale. Du coup, les électeurs se démobilisent. On peut le comprendre aussi.
Françoise Fressoz.
Vous avez peut-être raison d'insister sur l'influence des sondages qui, à mon avis, a davantage joué sur les législatives que sur la présidentielle. Parce que c'est vrai que il y a 5 semaines, rien n'était joué. C'est-à-dire qu'on disait, Emmanuel Macron aura peut-être une majorité, mais est-ce qu'elle sera large ou pas? Est-ce qu'il aura la majorité absolue ou pas? Il y a eu toute cette problématique posée de les autres groupes peuvent compter soit parce qu'ils auront un groupe, soit parce qu'ils auront un nombre de députés suffisant pour empêcher la majorité absolue. Et on voit bien qu'il y a eu une démobilisation. Alors, c'est vrai que la dernière semaine, tous les sondages disaient majorité écrasante. Est-ce que ça a pu décourager les électeurs? Ça, c'est la bonne question à se poser. Mais pour le reste, moi, je reste quand même interloqué du fait qu'il y ait une aussi faible mobilisation des opposants à Emmanuel Macron.
Karine Bécard, Céline Braconnier.
Je voudrais revenir quand même sur cette idée des médias éventuellement et même des sondages, mais donc là, des médias qu'auraient poussé l'élan vers Macron et vers donc la République En Marche. Moi, je suis allée sur le terrain, je fais partie du service politique de France Inter, je suis allée sur le terrain tout de suite, dès le début de la campagne des législatives. Et je peux vous dire que, dès le départ, les gens qu'on croisait, les électeurs, les futurs électeurs, nous disaient, il faut donner maintenant la majorité à Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il faut lui permettre de mettre en application le programme, finalement, pour lequel on l'a élu. Et c'était automatique. Et donc, quand on leur demandait, et vous connaissez le candidat La République En Marche? Ils ne connaissaient pas du tout le candidat La République En Marche. Et même, je me souviens d'avoir été dans une circonscription où il n'y en avait pas. Et donc, ils le cherchaient. Ils ne savaient pas exactement qui c'était. Et donc, j'arrive au deuxième point, qui a sans doute aussi poussé un peu à l'abstention, c'est cette offre politique totalement nouvelle, mais incompréhensible pour les gens. Entre le candidat anciennement de droite, mais donc soutenu par La République En Marche, mais officiellement, on ne l'annonce pas trop, parce qu'en qu'en fait, on ne sait pas trop si ça va être bien pris ou pas. La même chose à gauche. Et puis ceux qui, à gauche, n'ont pas obtenu, en fait, l'étiquette En Marche, mais qui... Non, mais je vais se dire, c'était incompréhensible pour les gens. Donc, il y a ceux qui sont très politisés, qui aiment ça, ou voire même très militants, qui, effectivement, ont épluché tout ça, ont compris comment ça fonctionnait. Mais c'était extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est juste un électeur... normal.
Mmh. Céline Braconnier.
Oui, je suis assez d'accord. Alors après, sur le terrain, nous, on a surtout dans nos enquêtes rencontré des gens qui, deux jours avant, donc au moment où ils recevaient les professions de foi, découvraient un petit peu les candidatures, se posaient la question de savoir à quoi ça servait les députés, nous disaient, mais le président, il a déjà commencé à envisager ces réformes, puisqu'on entend parler de la réforme du Code du travail, de la moralisation de la vie politique, etc. À quoi va servir notre vote. Il y a quand même une incompréhension très très forte du rôle du Parlement, tout simplement. Et là, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Rémi Lefebvre, une incompréhension liée au rôle assez secondaire qui est dans la pratique celui du Parlement aujourd'hui et qui est pas propice à son identification par les citoyens qui sont pas très 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 politisés.
Aurélien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Lyon et nous vous écoutons.
Merci beaucoup de prendre mes questions. Moi, je m'étonne depuis ce matin d'entendre justement des gens, des analystes politiques qui légitiment l'abstentionnisme au vu de l'offre politique qu'il y a sur ce premier tour. Moi, j'ai voté personnellement pour un petit parti tout en sachant qu'il ne serait pas forcément représenté à l'Assemblée. Mais on a vraiment une chance sur ce premier tour de voter pour ce en quoi on croit, ce en quoi on se sent représenté. Et je comprends vraiment pas qu'on puisse légitimer ces 51% d'abstention.
Merci pour cette intervention, Aurélien. Céline Braconnier.
Oui, je pense que là, on n'est pas dans la légitimation, on est dans la tentative de compréhension de ce qui se joue dans cette abstention et dans le fait que une grande majorité de citoyens s'est tenue à l'écart de cette élection législative dimanche. Donc, c'est pas de la légitimation.
Rémi Lefebvre, un mot, et puis Michel au standard.
Oui, ben on voit bien à travers le témoignage d'Aurélien que les rationalités du vote sont multiples. Aurélien a l'impression d'avoir pu s'exprimer en votant pour un petit parti. Beaucoup d'électeurs, alors peut-être parce qu'ils sont pris dans une logique d'efficacité électorale, ont l'impression que ça ne sert à rien parce que les jeux sont faits. Voilà. Donc c'est des projections, hein, le vote, c'est des raisonnements. Ça peut être un vote expressif. Pour beaucoup, c'est un vote qui a perdu son sens. Je voudrais revenir sur l'idée quand même de l'affaiblissement du Parlement. Au fond, les électeurs sont pas si bêtes. S'ils ne votent pas aux élections législatives, c'est qu'ils se rendent compte que l'Assemblée nationale n'est plus le lieu où on fabrique la loi. Et donc, au fond, ils ont peut-être beaucoup plus que les hommes politiques ou les journalistes ou nous-mêmes, les commentateurs, intériorisé l'idée que c'était pas là l'élection et qui est décisive. Et on voit bien aussi à quel point notre système médiatique, sondagier, renforcé encore par les primaires, renforce la centralité de l'élection présidentielle. Et du coup, les électeurs ont l'impression finalement qu'ils sont quittes de leur citoyenneté électorale lorsqu'ils ont voté l'élection présidentielle et que tout le reste n'est finalement que de peu d'importance démocratique.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Michel.
Oui, merci. La question concerne la représentation de grands courants politiques qui risquent d'être très mal représentés à cette Assemblée nationale, et je pense bien évidemment au Front National. Il est respectable, maintenant les journalistes, les courants de pensée commencent à employer des expressions beaucoup moins, montrant du doigt le Front National. On parle très peu d'extrême droite, fort heureusement. J'entendais tout à l'heure que la personne qui s'oppose à Madame Le Pen à Hénin Beaumont disait « Je votais surtout pas pour un parti de haine ». Voilà des mots qui ne me semblent pas correspondre à ce qu'on doit respecter dans une démocratie. Alors cette respectabilité du Front National doit être représentée à l'Assemblée nationale et pour ce faire, je pose la question, de la proportionnelle. Naturellement, la proportionnelle intégrale présente des inconvénients. Le général de Gaulle ne voulait pas que la 3e République et la 4e République se renouvellent à travers la 5e. Il a trouvé des lois et un système permettant au gouvernement de travailler correctement. Mais là, on est dans une dérive qui empêche les courants politiques de s'exprimer à l'Assemblée nationale.
Merci Michel pour cette question. Qui veut se lancer? Karine Descartes.
C'est évident que Marine Le Pen, elle a justement dit lors de son dernier grand meeting, qui était d'ailleurs, je crois, son seul meeting de campagne pendant les législatives, voilà l'occasion de dire qu'effectivement, une candidate à l'élection présidentielle qui rassemble 11 millions d'électeurs, je crois, au deuxième tour, au premier tour de l'élection présidentielle, c'est effectivement sans doute un peu dérangeant démocratiquement qu'elle n'est même pas un groupe à l'Assemblée et les projections Ipsos, je crois, parlent de 1 à 4 députés, ce qui est effectivement excessivement faible. En même temps, j'ai envie de dire que voilà, le Front National va excessivement mal depuis l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, depuis ce débat qui a été excessivement mal géré, depuis sa ligne politique qui n'est absolument plus claire, depuis le personnel politique à l'intérieur, Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot, qui l'une s'en va et l'autre fait semblant de commencer effectivement lui aussi à faire ses valises. Donc on sent bien que il y a un cycle au Front National qui fonctionne plus et qui fait qu'il est à nouveau en train de se casser la figure.
Françoise Fressoz.
L'idée de la proportionnelle, elle est en débat depuis, au fond, l'instauration de la Ve République. Et à chaque législature, on entend les pour et les contre. Je pense qu'il y a vraiment le souvenir de la Ve République qui plane sur les législateurs et qui les empêche d'aller dans cette direction-là. Par ailleurs, il y a une difficulté à appliquer la proportionnelle, c'est-à-dire que vous la votez, mais vous l'appliquez pas tout de suite. Donc, on est toujours, si vous voulez, à différer la chose parce que ça profite pas dans l'immédiat.
Ce que vient de faire Emmanuel Macron, d'ailleurs.
Exactement. Donc, on va voir, après François Hollande, Emmanuel Macron a repris l'idée, en tout cas, de mettre une dose de proportionnelle. Mais on voit bien qu'il y a quand même ce souvenir de la Quatrième République, ces majorités introuvables, cette impuissance politique qui a quand même pesé sur une République française, et je pense que c'est ça aussi qui empêche le retour.
Mais l'intervention de Michel Céline Braconnier démontre qu'on peut être un citoyen parfaitement structuré et regretter, voire ne pas aller voter, parce qu'on sait qu'au final, son courant de pensée ne sera pas représenté à l'Assemblée nationale.
Oui, alors ça, je pense que ça ne concerne qu'une petite partie de l'électorat très très politisé. Or, une partie de l'électorat de Madame Le Pen, et il faut aussi tenir compte de ça. C'est pas seulement une question de scrutin, de mode de scrutin. C'est une question de difficulté qu'a eu Marine Le Pen aussi à mobiliser son électorat de la présidentielle pour des raisons sociologiques, parce que c'est un électorat dont une importante partie est très populaire, moins diplômée et très jeune, et se cumule là, de facteurs rend plutôt la mobilisation électorale très très compliquée. Donc c'est un électorat qui a du mal à se mobiliser. Et puis pour des raisons aussi qui sont liées à la campagne, enfin à ce qui se passe à l'intérieur du parti. Mais ça a peu affecté les électeurs populaires. Hein. Tout ce qui la campagne législative a été très inaudible et très invisible dans les milieux où on s'intéresse pas à la politique. C'est surtout ce qui s'est passé à la présidentielle et le débat d'entre deux tours. J'étais hier en Seine-Saint-Denis toute la journée, où j'ai rencontré des électeurs du Front National que je connais bien, donc avec qui je discute régulièrement, et qui m'ont encore reparlé de ce débat, avec des mots à la fois qui révélaient une certaine honte de ce qui s'était produit, une forme de surprise, ils sont aussi décontenancés par ce qui s'est passé, et je pense que c'est un débat. Alors, il y en a très peu, hein, d'après les spécialistes de communication politique qui, dans l'histoire des campagnes, ont produit des effets de réorientation politique, mais ça fera sans doute partie des débats qui auront produit un effet de démobilisation sur l'électorat. Il y a aussi une difficulté particulière à mobiliser cet électorat.
Rémi Lefebvre sur la proportionnelle qui était le cœur de la question de notre auditeur.
Bah écoutez, la proportionnelle intégrale en marche sur la base de ses scores de premier tour a eu 197 sièges et le Front National 80. Donc on voit bien les distorsions de représentation. Bon, c'est un débat effectivement maintenant ancien sur la proportionnelle. Moi, ce que je voudrais juste observer d'abord, c'est que on est quasiment les seuls en Europe à pas avoir de proportionnelle. Donc c'est toujours étonnant de penser qu'on fait mieux que les autres. Et puis je pense pas que l'argument de la 4ème République aujourd'hui soit présent. C'est je pense que maintenant la mémoire de la 4e République s'estompe. Il y a plutôt un effet de système, un systémique entre l'élection présidentielle et le mode de scrutin majoritaire, l'un renforçant l'autre, et on est dans un système qui du coup produit structurellement de l'illégitimité ou de la délégitimation, je veux dire. Et je voudrais juste une remarque sur la proportionnelle, ce qui est paradoxal. Alors c'est vrai que Macron va proposer manifestement d'instiller de la proportionnelle donc pour la prochaine législative dans 5 ans, mais il y a quelque chose de contradictoire quand on veut dépasser les clivages. Est-ce que la proportionnelle n'est pas une manière de les dépasser, c'est-à-dire en représentant au départ le pluralisme idéologique dans la société, partir d'une représentation plus équilibrée de la société dans sa diversité, et au Parlement faire jouer la délibération. Et la délibération, c'est pas forcément la division, le chaos, la chienlit. C'est-à-dire qu'on est dans une culture de démocratique qui est peu délibérative. Du coup, on a l'impression que finalement débattre, c'est perdre du temps. Or, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on produit des majorités godillotes, et puis derrière, on observe que la démocratie fonctionne mal. Donc, il y a quelque chose d'assez régressif, à mon avis, dans ce fétichisme du scrutin majoritaire, et je pense que la proportionnelle peut vraiment être une voie pour régénérer et oxygéner la démocratie.
Françoise, un mot, et puis Thomas au standard.
C'est très intéressant le débat là qui s'est ouvert, parce qu'en fait, il y avait deux options effectivement pour Macron. C'était soit de faire une sorte de coalition, mais je crois qu'il a vraiment craint les marchandages, ce qui a un peu existé quand il y avait des coalitions, et puis l'idée d'essayer de bouger les choses assez vite dans le pays en mettant dans la même majorité des gens de droite et de gauche qui pensaient la même chose et qui étaient sur une option sociale libérale. Je trouve ça très intéressant parce que vous avez soit effectivement l'option délibération, mais ça prend du temps et il faut marchander, soit vous avez l'option on met ensemble des forces qui pensent la même chose et on agit vite. Et donc je pense qu'on est à ce moment-là et on va voir le résultat, ça va être très intéressant.
Thomas, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors moi, je me demande vraiment si Mélenchon et la France insoumise ont été bien inspirés de choisir comme cible principale le Parti socialiste en annonçant « je veux remplacer le Parti socialiste », etc. Puisque un des effets dans ma circonscription au sud de Toulouse, c'est que la France insoumise n'est pas au deuxième tour. C'est un deuxième tour en marche contre Front National. Mmh. Donc finalement, c'était une stratégie peut-être pas très payante.
Merci Thomas pour cette question. Qui se lance Françoise Fressoz et Rémi Lefebvre.
À court terme, effectivement, il peut y avoir des pertes en ligne dans les circonscriptions. À plus long terme, il peut dire, la France insoumise, qu'il est devant le Parti socialiste. Donc Jean-Luc Mélenchon a historiquement réussi son pari de dire qu'à un moment, il détrônerait le Parti socialiste. Alors après, il faut voir si Jean-Luc Mélenchon arrive à se faire élire au Parlement et arrive à occuper la fonction tribunicienne qui fera en sorte qu'il attirera vers lui une partie des électeurs socialistes qui ne veulent pas aller vers Macron. Donc c'est un pari sur le long terme qui peut être payant.
Mmh. Rémi Lefebvre.
Oui, compliqué, mais Mélenchon a changé de stratégie. Quand il est parti dans cette campagne présidentielle, il partait pas pour la gagner, il partait pour pasoquiser le Parti Socialiste, c'est-à-dire le reléguer, l'éliminer, le remplacer, c'est l'expression qu'il a employée par la suite. Et puis, chemin faisant, la perspective d'être au deuxième tour il a pu se représenter cette perspective. Et puis, aux législatives, il est revenu à l'idée que finalement, il fallait avant tout liquider le Parti Socialiste, d'où une stratégie qui est apparue brutale vis-à-vis du PS, mais aussi vis-à-vis des écolos, vis-à-vis du Parti communiste. Et donc on a l'impression que finalement Jean-Luc Mélenchon a préféré 15 députés, mais de son camp, plutôt une gauche un peu plus lisible et rassemblée. Voilà. Et au final, ce qu'on voit, c'est que le paysage de la gauche va être assez stupéfiant à l'issue de ces législatives. D'abord, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment converti l'essai de l'élection présidentielle. Il va avoir des élus, mais peut-être pas beaucoup plus que des élus socialistes. Le Parti socialiste n'a pas vraiment disparu. Hein. On va voir s'il ne va pas exploser, mais il n'est pas complètement liquidé. Et donc, on ne peut pas dire que le paysage de la gauche soit véritablement clarifié. Donc, on a l'impression, finalement, que tout le monde a perdu. Le PS est vraiment affaibli. Mais pour autant, est-ce que Mélenchon est devenu aujourd'hui le leader de l'opposition de gauche? Rien n'est moins sûr.
Qui veut répondre à cette question que pose Rémi Lefebvre et qui est extrêmement intéressante? Au fond, à gauche, qui est en position vraiment d'incarner l'opposition dans les 5 années qui viennent?
Bon, moi, ce qui me frappe quand même, c'est vous dites le Parti Socialiste résiste. Moi, je pense que c'est quand même une bérésina absolue pour eux quand vous voyez le nombre de la, des leaders et puis de tous les camps, c'est-à-dire à la fois des Hollandais, des frondeurs. C'est une bérésina absolue. Jamais ils risquent d'avoir un nombre d'élus aussi bas. Mélenchon, c'est un pari. Hein, c'est un pari de s'implanter à l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai qu'à Marseille, c'est drôle parce que maintenant, pour le deuxième tour, il a besoin des voix socialistes. Donc, il est un peu gêné. Mais on voit quand même qu'il y a à gauche, sur quelle ligne va se faire la reconstruction? Est-ce que ça va être une gauche beaucoup plus à gauche? Est-ce que Mélenchon, du fait que peut-être il aura une fonction tribunicienne à l'Assemblée nationale, arrivera à prendre ce leadership? Tout est ouvert, mais moi ce qui me frappe quand même, c'est la bérésina du Parti Socialiste. Avec, j'ajoute, des endroits dans sur le territoire, le Nord-Pas-de-Calais, où ils sont absolument laminés.
Karine Bécart.
Je ne suis pas certaine que Jean-Luc Mélenchon réussisse à prendre l'étoffe qu'on peut imaginer à l'Assemblée justement par cette fonction tribunicienne. D'abord parce que on a vraiment trop vu deux Jean-Luc Mélenchon sur ces 6 derniers mois. Il y a eu vraiment le Jean-Luc Mélenchon de cette campagne présidentielle, presque trop polissé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, on a retrouvé un autre Jean-Luc Mélenchon au moment des élections législatives. Effectivement, j'ai envie de dire vindicatif, mais c'est même pas le mot. C'est presque violent, en tout cas brutal, avec le PS, avec ses, est-ce qu'on peut dire alliés, je ne sais pas, mais en tout cas alliés du PC malgré tout. Et donc au final, on a découvert quelqu'un qui est de toute façon, comme toujours, brutal. Il faut avoir envie de se mettre sous les ordres de ce grand homme, et puis avec quelqu'un qui a très peu de monde autour de lui. Ces élections législatives, il a du mal à faire, effectivement, à marquer énormément de points, parce que je l'avais dit notamment dans Questions politiques à Éric Coquerel qu'on avait reçu il n'y a pas très très longtemps en disant mais ma foi, une fois qu'on enlève Jean-Luc Mélenchon, il n'y a quasiment plus personne dans ce parti. Évidemment, ça ne lui avait pas vraiment fait plaisir. Mais c'est pas
faux. Il avait démenti.
Ça, c'est pas faux non plus. Je veux dire, il y a 5 personnes quoi, vraiment sur lesquelles on peut compter. Donc moi, au-delà du personnage, je ne pense pas qu'il puisse prendre le leadership sur la gauche.
Sur la gauche du Nord, Rémi Lefebvre, ce tweet de Frédéric Savicky hier soir, qui est l'un de vos collègues professeurs de sciences politiques, Nord-Pas-de-Calais, aucun candidat socialiste au second tour. Une situation inédite depuis au moins les législatives de 1885.
Oui, oui, il a tout à fait raison, Frédéric. C'est stupéfiant, c'est-à-dire qu'il y a le Parti socialiste a disparu de la carte électorale. Alors ça vient après des élections régionales qui ont donné 0 élu dans les 5 départements des Hauts-de-France, des élections municipales catastrophiques, des élections départementales très mauvaises dans le Nord. Voilà, donc c'est un laboratoire, hein, le Nord-Pas-de-Calais, parce que c'était un Parti socialiste qui était ancré dans les milieux populaires. C'était le Parti socialiste de Pierre Mauroy, et là, il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus un candidat socialiste au deuxième tour de l'élection législative. Il y avait des circonscriptions où il n'y avait pas de députés socialistes. Et donc là, il n'y a plus guère que la mairie de Lille, aux mains de Martine Aubry, qui est retranchée sur le beffroi, qui reste comme repère dans ce paysage socialiste dévasté.
Quelle atmosphère chez vos interlocuteurs du PS du Nord, Rémi Lefebvre, quelle analyse font-ils de cette évaporation ?
Écoutez, d'abord, c'est les militants qui se sont évaporés, hein, puisque la Fédération socialiste du Nord et du Pas-de-Calais a perdu plus de la moitié de ses adhérents. Une très grande désespérance, beaucoup de désenchantement, beaucoup de conflits aussi, parce que évidemment, ce qui a été terrible pour le Parti socialiste, ça a été aussi l'opposition avec les frondeurs, hein, c'est-à-dire que au fond, les frondeurs qui annonçaient ces défaites et qui en même temps n'ont pas réussi à infléchir la ligne. Martine Aubry, qui finalement a joué le jeu malgré tout de la majorité, elle n'avait pas vraiment fait alliance avec les frondeurs au dernier congrès de Poitiers. Et donc on est dans une situation où les perspectives sont faibles, et en plus il y a des conflits de personnes entre l'ex-ministre de la ville Patrick Kanner et Martine Aubry. Donc une situation vraiment extrêmement désenchantée.
Emmanuel, bonsoir. Vous nous appelez de La Rochelle.
Absolument, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Voilà, je me posais une question. Moi, je suis allée voter, je n'ai jamais loupé un scrutin. Néanmoins, je me posais une question sur les abstentionnistes. Est-ce que ça ne pourrait pas venir du fait que, de toute façon, quel que soit leur choix, le choix qu'ils feront, certaines lois passeront, C'est-à-dire, je pense notamment à la loi de travail, qui de toute façon passera par ordonnance. Mmh. Est-ce que c'est pas un peu démotivant pour les gens qui ont, voilà, qui se demandent s'ils vont aller voter ou pas?
Merci Emmanuel pour cette question. Céline Braconnier, un mot ?
Oui, bien sûr que c'est ce qu'on a essayé d'évoquer tout à l'heure. Cette démobilisation des électeurs, elle est aussi liée à la difficulté à appréhender le rôle du Parlement, puisque on a l'impression que les réformes sont déjà dessinées en pointillé et que les députés n'auront de toute façon qu'à les voter. Et le fait majoritaire tel qu'il a été mis en œuvre hein, depuis plusieurs décennies explique ce sentiment-là. Donc les électeurs intuitionnent très bien que l'essentiel ne se joue pas sur les bancs de l'Assemblée, mais plutôt du côté de l'Élysée. Mmh. Il faut savoir que c'est un tout petit peu différent et ça se traduit dans un niveau de mobilisation plus élevé dans les pays où le Parlement joue un rôle politique véritablement important et notamment non seulement vote la loi, mais peut renverser le gouvernement. Qu'on regarde par exemple du côté de l'Italie, alors c'est pas forcément un modèle à suivre, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un lien direct entre le niveau de participation et l'intérêt que peuvent trouver les citoyens et la centralité de l'institution qui est soumise au vote des électeurs. Aujourd'hui il n'y a aucun électeur qui a vécu parmi les nouvelles générations qui a vécu une motion de censure, enfin c'est même pas envisageable. Donc voilà, et donc même quand on connaît pas bien la politique, le fait même qu'on ne sache pas vraiment ce qu'est un député, ça dit l'ampleur de l'aspect subalterne, finalement, de la position subalterne occupée par notre Parlement aujourd'hui, et ça explique quand même en partie la démobilisation.
Françoise Fressoze.
C'est tout à fait juste, et je pense que ce qui intervient là, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est vraiment une application de la logique de la Ve République, le fait présidentiel, le fait majoritaire, poussé à l'extrême. Ce qui va poser effectivement un problème de quelle participation pour le citoyen, qui anticipe le fait qu'effectivement le Parlement, de toute façon, il y aura la majorité absolue, plus les ordonnances. Donc, comment associer le citoyen à la décision politique? Mais ça, en même temps, je pense qu'Emmanuel Macron, il en est assez conscient de ça. Donc, la chose intéressante qui va peut-être se produire ou qui ne se produira pas, c'est quel est le lien direct entre Macron et l'opinion pour expliquer les réformes, les faire passer et faire en sorte que ceux qui ne se sentent pas représentés aient quand même leur mot à dire. Ça va être très important à observer.
Encore un mot, Céline Braconnier.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Rémi Lefebvre tout à l'heure qui est important. La démocratie, ça demande du temps, hein, de la même façon que ça a un coût. Ça demande du temps et le temps du débat et de la discussion. Vouloir au nom de l'efficacité aller très vite, c'est toujours très dangereux. Parce qu'on ne sait pas où s'arrêter dans la logique de l'efficacité. On peut aussi ne pas organiser des élections, ça ira encore plus vite. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, voilà.
Ouais. Et ça allégerait l'agenda d'un certain nombre de journalistes dans ce studio.
On sera au chômage.
Oui, voilà. Bon, la première partie de ce téléphone sonne est terminée. On se retrouve à 19h20, amis auditeurs d'Inter. Donc, continuez à intervenir. Il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets qu'on n'a même pas esquissé. Un mot, Karine Bécar, mais un mot rapide.
Juste, je trouve ça quand même un peu contradictoire ce que j'entends sur... voilà, on ne sait pas trop le rôle des députés, mais on a déjà compris qu'en passant par les ordonnances, ça veut dire que les députés participeront pas au jeu.
Oui, il y a une injonction contradictoire. Là, ouais.
Je trouve, non. Mais
non. Non. Bon, écoutez, je dois rendre. Voilà, je dois rendre l'antenne. Le journal arrive avec Sébastien Paour.
France Inter. Le 18-20.
Avec la suite de cette édition spéciale du 18-20 au lendemain du premier tour des législatives, paysage politique bouleversé, on l'a dit, tous les repères classiques de la vie politique française ont volé en éclats. Nos invités répondent à toutes vos questions, amis auditeurs, sur la République en marche, sur les gauches dans toutes leurs composantes, les droites, qu'elles soient LR ou FN. À quoi peut bien ressembler par ailleurs l'exercice du pouvoir dans cette nouvelle configuration? Qui incarnera l'opposition dans une recomposition politique qui intègre à la fois la droite et la gauche? Où est l'extérieur donc? Vous avez la main et la parole jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le standard 01 45 24 7000. Bonsoir Laurent, bienvenue.
Oui, bonsoir à tous.
Nous vous écoutons.
Je voulais revenir sur le lien qu'il pourrait y avoir entre l'abstention et le financement des partis politiques. On a vu qu'il y avait en moyenne 14, on va dire, prétendants pour chaque circonscription, parce que c'est pas justement parce que c'est là qu'on vient se remplir les poches qu'il y a autant de monde. Et puis, l'abstention, parce que les Français, ils en ont marre d'aller voter pour donner de l'argent à des partis politiques qui représentent pas forcément grand monde quand on connaît le nombre d'adhérents qu'ils ont.
C'est une analyse de l'abstention qu'on n'a pas encore formulée jusqu'à présent à ce micro. Laurent, merci pour votre question qui pose évidemment aussi celle de l'argent qui n'est pas un sujet mineur. Pour vous répondre, Laurent, nous sommes toujours en compagnie de Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille en duplex depuis les studios de France Bleu Nord. Françoise Fressoz du Monde est toujours là. Laure Breton, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Libération vient de nous rejoindre. Dominique Régnier, le directeur général de la Fondapol, sera avec nous dans une dizaine de minutes. Sur la question de l'argent, Laure Breton.
Je ne sais pas si ça a été une vraie raison de voter ou en tout cas de s'abstenir. Je sais que c'est effectivement extrêmement important. De toute manière, ce à quoi on est en train d'assister, c'est une déroute à la fois politique, idéologique pour le Parti Socialiste, mais une déroute financière. Parce qu'en fait, chaque vote rapporte les dotations d'argent public qui financent les partis politiques sont basés sur deux variantes, le nombre de voix aux législatives et le nombre de parlementaires. Et donc là, de fait, en nombre de voix et en nombre de parlementaires, le
jackpot.
C'est jackpot pour La République En
oui.
Marche
oui,
ou,
oui.
ou le MoDem.
Oui, oui.
Et c'est la déroute, effectivement, pour le Parti Socialiste. On parle d'une dotation publique qui passerait de 25 millions d'euros pour le Parti Socialiste à moins de 10. Certains chiffres disent 5,9 millions d'euros. Donc c'est vraiment la banqueroute, en fait. Et dans le même temps, les Républicains, ils sont dans une situation qui était assez compliquée aussi, c'est qu'ils sont très endettés. Et donc, en fait, ils vont avoir beaucoup d'argent public en moins et un problème de dette à régler. Donc, effectivement, c'est pas du tout négligeable pour les partis politiques.
Françoise Fressoz, sur ces questions financières qui sont déterminantes, hein, on le voit. La République En Marche va avoir beaucoup d'argent, le MoDem aussi vont, pour l'un, pouvoir se renflouer, et pour l'autre, La République En Marche, c'était tout de même un mouvement qui avait un an et qui n'avait donc pas de fonds publics importants. Quand on est un mouvement, qu'on a énormément d'argent, on devient un parti, point d'interrogation.
Ah oui, mais ça, c'est bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre en politique et que ça participe au changement d'un mouvement en un parti. Là aussi, c'est très intéressant la façon dont Emmanuel Macron s'y est pris. Il est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle d'une façon assez homogène sur le territoire. Là, le premier tour des législatives consacre cette implantation. Et il va y avoir donc une implantation de En Marche sur tout le territoire. Et ils vont se retrouver, parce qu'ils ont la majorité absolue et parce qu'ils font élire un nombre de députés records, avec énormément d'argent. Donc, ils ont de quoi, effectivement, transformer le mouvement En Marche en un véritable parti politique. Et donc c'est très important. Oui, c'est une vraie révolution dans le paysage politique français. Et inversement, c'est vrai que le Parti Socialiste va se retrouver dans une difficulté énorme. On a vu déjà qu'il avait perdu beaucoup sur le territoire. Là, il va peut-être obligé de brader son siège parisien, qui était quand même historique. Donc voilà, il y a un bouleversement historique et qui se fait aussi par le biais financier.
Laure Breton, puis Rémi Lefebvre à Lille.
On s'était aperçu pendant la campagne qu'il y avait l'argent, le nerf de la guerre, comme le disait Françoise Fressoz, c'était très important pour En Marche, qui donc ne dépendait que des dons. Et ça avait déjà posé beaucoup de questions sur la formation de ce parti, sur la formation de ce mouvement. C'était inédit en France. Donc en fait, c'est jackpot dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il s'est formé sans personne, avec des dons de personnalités plus ou moins connues et qui ont donné plus ou moins d'argent. C'était un grand axe de campagne d'ailleurs de Benoît Hamon qui dénonçait des dons donnés par des personnalités extrêmement riches ou en tout cas qui étaient d'une sociologie sociale très peu variée. Et maintenant, il bascule dans quelque chose de très officiel. Donc en fait, il a gagné sur les deux tableaux.
Rémi Lefebvre.
Oui, j'avais dit à votre antenne il y a quelques semaines que les partis c'était des affaires de pépette. Je confirme, c'est absolument décisif dans l'organisation des partis.
Je me souviens de cette analyse.
Le Parti Socialiste ou LR vont faire de leurs 100 permanents, hein, puisqu'ils ont 100 permanents actuellement alors dans leurs sièges respectifs. Il risque d'y avoir des plans sociaux. Le Parti Socialiste est propriétaire de son siège, va sans doute devoir le vendre. Il faut ajouter à ça le déficit de certaines fédérations
de partis. Hein. Par exemple, la Fédération du Nord est en, a une dette d'1 million d'euros, ce qui est absolument colossal. Et effectivement, lors de ces élections législatives, les élections législatives sont le moyen pour les partis de se financer. Et on ne peut pas comprendre la division des partis de gauche, et notamment la division, les divergences de stratégie entre le Parti communiste et Mélenchon, si on ne s'attache pas aux enjeux financiers, puisque en 2012, le Parti communiste avait réussi à obtenir l'essentiel du financement des électeurs du Front de Gauche. Jean-Luc Mélenchon veut très clairement constituer un parti, et la dureté de ses rapports et de la négociation avec le Parti communiste est liée à des enjeux financiers. Alors sur En Marche, il faut aussi remarquer que En Marche, dès que le mouvement avait été lancé, Emmanuel Macron avait embauché 40 personnes dans son siège de campagne. Là, concrètement, il va pouvoir constituer un parti, et c'est ça qui va être très intéressant dans la phase qui va s'ouvrir. C'est, est-ce que le mouvement En Marche va se normaliser, va devenir un parti comme les autres? C'est déjà un parti entreprise, c'est un parti qui fonctionne de manière très managériale. Là, il va avoir des moyens considérables. Alors après, la question, et je terminerai là-dessus, c'est de savoir, est-ce que ça compte? C'est le nerf de la guerre, oui, mais est-ce que les partis politiques, les permanents, tout ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ça n'a pas En Marche n'avait que 40 permanents, ça ne l'a pas empêché de gagner très largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question aussi qui est posée, c'est est-ce que les appareils partisans, dans une vie politique qui est de plus en plus nationalisée, qui est de plus en plus comme ça sur des mouvements rapides, est-ce que ça compte encore? C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent.
Ça va être un moment absolument passionnant, Rémi Lefebvre.
Ah oui, non, mais moi j'attends avec impatience le congrès fondateur d'En Marche pour voir ce que va être le nouveau parti, ce que vont être ces nouveaux députés qui vont investir l'enceinte parlementaire. Pour la science politique, c'est une période qui va être extrêmement...
Une période bénie pour notre discipline.
On va voir plein de choses, on va pouvoir observer plein de choses, effectivement.
Juste encore un mot, Rémi Lefebvre, vous disiez 40 permanents pour l'élection présidentielle, 40 permanents pour gérer peut-être 400 députés. Il va falloir recruter, non ?
Ah non, mais ça c'est sûr. Et je pense qu'il n'aura pas trop de mal à recruter, oui, mais on va voir sur quel mode. C'est-à-dire, est-ce qu'il va faire un appareil version parti traditionnel, ou est-ce qu'on va avoir le langage entrepreneurial, start-upial qu'on a eu on va voir. On va voir ce que c'est le modèle partisan d'un parti présenté comme révolutionnant le système partisan.
Françoise Fressoz, encore un mot, puis Jacques au standard.
Oui, quand vous disiez quel est encore le rôle des partis politiques, je pense que, par exemple, l'élection de François Hollande, elle ne se conçoit pas sans tout ce qui s'était passé avant au Parti Socialiste, cette implantation locale, ce soutien des élus locaux. Est-ce que Emmanuel Macron annonce une nouvelle ère? Ça, c'est effectivement le point d'interrogation, mais on sent quand même que les formations politiques, ça compte dans le paysage politique et dans la façon de faire de la politique.
On reparle d'argent avec Jacques, bonsoir, mais l'argent sous un autre angle.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir à votre équipe.
Bienvenue.
Oui, j'apprenais une chose étrange ce matin, c'était chez vous, chez France Inter, et puis dans le monde aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu 51% d'abstention, c'est beaucoup, mais surtout, il y avait une chose qui m'inquiétait, c'est que les 49% qui ont voté, ce sont des gens qui ont plus de 3000 euros mensuels. Et à partir de ça, ça m'a paru être une catastrophe, parce que soit pour l'élection d'un président, soit pour l'élection d'une Assemblée nationale, on va passer par un élitisme de l'argent.
Et la reconstitution peut-être d'un néo-suffrage censitaire. Merci Jacques pour cette question. Alors sur la sociologie de ceux qui ont voté aux législatives et qui ont donc majoritairement voté pour En Marche, qui veut dire un mot ? Françoise,
c'est
et puis Rémi Lefebvre.
C'est tout à fait vrai que ceux qui se sont le plus abstenus, ce sont les catégories populaires et puis ce sont aussi les jeunes. C'est-à-dire ces deux catégories qui, en général, votent soit Marine Le Pen, soit Mélenchon, et qui, là, ont considéré que c'était pas la peine de se déplacer. Donc, effectivement, quand vous voyez aussi le profil des candidats d'En Marche, hein, pour peut-être prolonger aux législatives, c'est un milieu qui est assez homogène. Alors, on peut pas dire que qu'on revient au suffrage censitaire, parce que quand même tout le monde peut voter. On a le droit d'aller quand même voter. Mais il risque d'y avoir,
hasardeuse.
Il risque d'y avoir une certaine homogénéisation, effectivement, d'ailleurs lié au projet de transformation que veut faire Macron, qui est un projet social-libéral, qui effectivement est soutenu par une certaine catégorie de Français et qui fait peur à une autre. Donc on va avoir, il va y avoir effectivement cette interrogation, c'est à qui s'adresse très concrètement Emmanuel Macron.
Laure Breton puis Rémi Lefebvre.
Mais on a vu, en complément, on a vu aussi une majorité de chômeurs s'abstenir, qui se sentent pas concernés finalement par ce qui s'est passé, peut-être par les premiers pas d'Emmanuel Macron, par les premières décisions d'Emmanuel Macron. Peut-être que les affaires ont peut-être un peu joué. On a dit finalement Richard Ferrand ou le MoDem n'ont pas été sanctionnés. Peut-être que c'est dans cette abstention qu'on a trouvé ce refus ou ce rejet. Mais moi, je me dis surtout, on se dit surtout que il y aura pas d'opposition. Il va y avoir un groupe pléthorique. Donc on se dit peut-être que l'opposition, et c'est là où peut-être le président Macron devra faire attention, c'est que l'opposition va peut-être se jouer dans la rue, effectivement. Et c'est ce que beaucoup de gens disent à l'occasion de la future loi travail, qui va être négociée en plein été, ça c'est plutôt habile, et qui va probablement face à face des gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, qui vont se retrouver face à son programme, confrontés aux conséquences de son programme, et qui vont peut-être vouloir s'y opposer.
Un mot, Rémi Lefebvre, et puis Emmanuel au standard.
Ben Nicolas, votre comparaison n'était pas du tout hasardeuse historiquement.
Merci.
Il y a de puissantes logiques censitaires qui travaillent.
J'ai le renfort de la science politique.
Daniel Gaxi, qui est un très grand politiste français, avait écrit à la fin des années 70 un ouvrage qui s'appelait Le sens caché, CENS, et ces logiques censitaires, et Céline Braconnier l'aurait dit bien mieux que moi, s'accentuent dans notre société, ces logiques censitaires, parce qu'au fond, il y a tout un ensemble d'électeurs qui s'auto-excluent du jeu politique parce qu'ils n'ont pas le capital culturel, le capital symbolique, le sentiment d'habilitation pour participer à l'élection. Et ce chiffre, évidemment, est édifiant. Hein. Je l'avais pas vu, mais effectivement, le fait que les salariés de plus de 3000 euros ont participé beaucoup plus que les ouvriers, par exemple. Deux tiers des ouvriers n'ont pas voté hier. Deux tiers aussi des jeunes, des moins de 35 ans. Et dans les moins de 35 ans, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas 3000 euros par mois. Et donc, ça, c'est une logique qui s'accentue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui participent, c'est ceux qui sont inséré socialement, et l'élection représente de moins en moins ces exclus, ces gens qui se vivent hors du système, alors qui vont voter au moment de l'élection présidentielle parce que l'enjeu est clair et ils ont participé notamment pour une partie des milieux populaires en votant pour le Front National. Mais on a une logique de plus en plus élitiste, et d'un certain point de vue, ces électeurs d'En Marche effectivement ont voté pour des gens qui les représentent socialement, parce que c'est évident. On a beaucoup parlé de la société civile à travers les candidats d'En Marche, mais Luc Rouban, qui est un spécialiste du CEVIPOF, a fait une étude extrêmement approfondie où il montre que il n'y avait pas beaucoup de diversité sociale dans les candidats d'En Marche, et on avait une France, la France d'en haut, managérialisée, diplômée, urbaine, et c'est évident aussi qu'une partie des électeurs ne peuvent pas s'identifier à cette France d'en haut qui marche et donc qui mal représente, d'un certain point de vue, une partie de l'électeur.
On retourne au standard. Emmanuel est en ligne. Bonsoir, bienvenue.
Mais bonsoir, je vous appelais. Alors en fait, il y a eu comme ça a tout bougé depuis tout à l'heure au niveau des questions. Et, alors moi, je vais rester un peu sur ce que j'avais décidé dès le départ. Donc,
allez-y.
C'est-à-dire que en fait, on était parti pour dire que il y avait beaucoup de députés qui vont arriver à l'Assemblée nationale de la République en marche. C'est pas la première fois que ça arrive dans la Ve République, hein, parce que à chaque fois on nous mais c'est déjà arrivé en 81 après l'élection de Mitterrand. C'est arrivé. Alors c'était plusieurs groupes parlementaires, mais ça revient à la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une majorité. Là, ça me semble pas plus que d'habitude. Hein, c'est déjà arrivé. Deuxième chose, c'est qu'on peut se réjouir quand même qu'il y aura beaucoup de femmes. Donc, on n'arrête pas de nous parler de la parité, ben, tant mieux. Hein. On aura peut-être 240 députés à l'Assemblée nationale qui seront des femmes, ben, c'est plutôt bien. Et puis après, je pense que on oublie que dans La République en marche, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilités différentes. Ouais. Et je suis pas sûr que pour Monsieur Macron, ça soit si facile que ça de gérer 400, peut-être 450 députés qui sont un peu de gauche, un peu de droite, issus de la société civile, issus beaucoup de la société civile, mais issus de profession libérale, des avocats, des médecins, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des patrons, qui n'ont pas l'habitude d'être dirigés.
Oui, oui.
Et donc, ces gens-là, il va peut-être falloir les... Alors, soit il va falloir qu'ils débrouillent avec eux, soit ça va devenir des, entre guillemets, des frondeurs, et je suis pas sûr que qu'on vive ce que le PS ou le LR ouais. veut nous dire, où tout le monde va être d'accord, on va avoir que des grands moutons, l'Assemblée nationale va être... J'en suis pas convaincu.
Merci Emmanuel pour cette intervention. La parole à François avant de la faire circuler ici en studio. Bonsoir, bienvenue. François, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, alors moi, la réflexion que je me fais, la question que je pose à vos invités, c'est qu'on explique la différence entre un président de droite et une majorité de droite, un président de gauche avec sa majorité absolue de gauche, et maintenant, quelle est l'obscénité d'avoir un président d'En Marche avec une majorité En Marche? Quand j'ai entendu toutes les commentaires politiques des leaders des ex-grands partis ce matin, j'avais l'impression que c'était une monstruosité qui allait arriver, qui tombait sur la France.
Merci François pour cette analyse. Effectivement, on ne pleure pas quand la gauche a une majorité, quand la droite a une majorité. Et pourquoi donc serait-ce différent quand En Marche a une majorité absolue, Françoise Fressoz?
Eh bien, pourquoi? Parce que je pense que ce qui a caractérisé la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a utilisé à plein les institutions de la Ve République et le fait présidentiel. Et je pense qu'il y a quand même cette interrogation de est-ce qu'un homme à lui tout seul peut transformer un système politique? Il a parfaitement bien joué en considérant que c'était un homme et derrière cet homme, une majorité qui allait pouvoir bouleverser les choses. Mais il y a quand même cette interrogation. Est-ce qu'on a affaire à Bonaparte? Est-ce que on peut encore penser et débattre? Est-ce qu'il peut y avoir une voie oppositionnelle dans ce nouveau système qui est fondé, je pense, très fondamentalement sur la quête de l'efficacité, parce que on a pendant deux quinquennats de suite eu un procès de l'impuissance des politiques, que Macron essaye d'avoir, de prendre rapidement des mesures pour prouver l'efficacité. S'il y parvient, très bien, s'il y parvient pas, il y aura quand même un procès en bonapartisme.
Laure Breton.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Françoise, le porte-parole du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres a rappelé que Emmanuel Macron avait résumé l'enjeu des législatives entre le choix entre l'efficacité et l'impuissance. C'était clair, c'est lui qui l'a théorisé. Il a assez peu parlé de ces législatives finalement. Il a laissé les autres faire le travail. Et là, c'était effectivement lui qui disait, c'était l'expression tout à l'heure de Rémi Lefebvre, son entreprise managériale. Il avait dit voilà, si vous voulez qu'on continue avec ces frondeurs d'un côté, avec ces décisions qui ne sont pas jamais prises, qui sont toujours repoussées, à ce moment-là, ne me choisissez pas. Mais moi, je voulais surtout revenir sur la gestion d'un groupe pléthorique. C'est un peu le paradoxe, parce qu'on se retrouve avec... On va se retrouver avec un groupe qui peut peut-être aller jusqu'à 440 députés En Marche, dont 50% de société civile, dont une très grande partie seront des novices. Et le paradoxe, c'est qu'ils ont beaucoup de monde, mais assez peu de cadres. Ils en ont même très peu. Et il y a 40 postes qui sont extrêmement importants à l'Assemblée nationale, qui seront les présidents des 8 commissions, notamment la commission des finances, comme vous disiez tout à l'heure. À qui on la donne? Puisqu'on la donne à l'opposition. Donc à qui on va donner la présidence et le poste de rapporteur général du budget, qui sont des postes cruciaux? À qui on va donner les postes de questeur qui gèrent l'argent de l'Assemblée nationale? Il faut 40 personnes. Pour l'instant, on ne les voit pas émerger au sein d'En Marche, dans cette espèce d'énorme groupe qui va faire son... Donc les nominations par le président Macron et par son parti seront très très importantes à surveiller.
Rémi Lefebvre.
Oui, plein de choses qui ont été dites. Tout à l'heure, j'ai pointé la faible diversité sociale dans En Marche. En même temps, je pense qu'on peut se réjouir du noviciat qui va arriver à l'Assemblée nationale. C'est bien parce que la politique ne devrait pas être un métier. Donc, on va voir arriver des gens, je ne sais pas si c'est la société civile, mais en tout cas, qui ont des profils parfois différents des députés classiques de gauche et de droite. Et c'est très bien, hein, d'ailleurs, parce que le problème aussi, pourquoi ça a marché En Marche? Parce qu'effectivement, le recrutement des professionnels de la politique à gauche comme à droite était devenu complètement endogame. On le sait très très bien, beaucoup d'assistants parlementaires, beaucoup de gens qui n'ont fait que de la politique. Et là, on va voir arriver objectivement des profils nouveaux. Alors même s'il y a des apparatchiks reconvertis, il y a effectivement des professions libérales, des notaires, des médecins, des entrepreneurs qui vont arriver. Et ça va être très intéressant. Je vais vous confier juste une anecdote. C'est un entrepreneur qui me confie récemment qu'il avait découvert le salaire en fait d'un député, 5 000 euros par mois. Il me dit mais c'est pas possible, moi je gagne le double. Comment je
vais faire ? Il était très étonné. Il commençait déjà à réfléchir à l'idée de garder un autre boulot. Et alors je lui disais, mais vous allez aussi découvrir les servitudes du métier politique, parce que vous savez, le week-end, c'est fini, les week-ends, vous allez faire toutes les manifestations locales pendant 2 jours, et ça va être intéressant de voir comment ces élites assez dominantes, alors ils sont pas toutes sur ce profil-là, vont rentrer ou non dans le moule de député, parce qu'être député, c'est pas toujours une sinécure, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Alors sur la compétence maintenant à l'Assemblée, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi si Macron ne va pas organiser cette incompétence, parce que si il voit arriver effectivement des profils qui sont un peu récalcitrants, il peut jouer aussi de cette incompétence pour renforcer, alors c'est un peu machiavélique ce que je vous raconte, mais le poids des administrateurs, etc., qui cadrent très fortement le travail parlementaire. Et on va voir, et c'est pour ça que c'est encore un laboratoire fascinant qu'on va voir se déployer devant nos yeux, comment cette rapport entre la fonction publique et ses députés. J'observe que Macron a réduit le nombre de cabinets ministériels pour renforcer le rôle des directions centrales des ministères. Est-ce qu'il ne va pas être tenté de faire la même chose à l'Assemblée nationale ? C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent.
Dominique Régnier nous a rejoint. Bonsoir.
Merci
d'être au micro d'Inter. Dans la question de notre auditeur François, il y avait cette remarque. Pourquoi s'étonner et s'effrayer que La République En Marche ait une telle majorité, une majorité absolue, alors qu'on ne s'effraie et qu'on ne s'étonne pas quand la gauche a une majorité absolue et quand la droite a une majorité absolue. L'élément là qui change, c'est que quand la gauche a une majorité absolue, on voit à peu près où est l'opposition. Quand la droite a une majorité absolue, idem. Mais là, où est l'opposition ? À gauche, à droite, c'est quand même une question très délicate que de la situer, parce qu'il y a de la gauche et de la droite au sein de La République En Marche. Il y a de la gauche et de la droite au sein du gouvernement. Donc, qui sont les oppositions ?
Oui, c'est vraiment l'originalité d'En Marche dans cette élection. Il faut aussi quand même remarquer qu'on a l'air de découvrir les uns et les autres la manière dont a été confectionnée la Ve République, quand même, parce que c'est plutôt fait pour produire des résultats avec des majorités puissantes. C'est une des difficultés, parce qu'En Marche est à la fois une majorité absolue, ça se sera confirmé dimanche prochain évidemment, absorbe une partie de ce qui aurait pu être l'opposition avec des éléments de droite, des éléments de gauche, marginalise complètement les oppositions ou celles qui ressembleraient à des oppositions institutionnelles. C'est repéré, moi j'ai fait une enquête avec IFOP sur 3000 personnes avec ma fondation, on a fait vraiment un gros travail, et le repérage immédiat de l'opinion pour l'opposition, c'est, pardon pour les chiffres, mais ce sont ceux-là, 48% Front National, 37% France Insoumise, 12% Les Républicains, opposition quand même jusque-là installée, 4% pour le Parti Socialiste. Donc c'est pas les quelques députés du Front National et de France Insoumise qui feront l'opposition parlementaire. Donc il est possible qu'il y ait une déparlementarisation de l'opposition, que ça se passe. Alors on dit spontanément dans la rue, moi je le dis aussi volontiers, mais peut-être qu'il faudrait faire un effort d'imagination de plus, et je ne dis pas ça pour en être capable moi-même, je n'y arrive pas plus, mais il ne faut pas poser comme hypothèse que le mouvement de dégagisme, la formule quand même me paraît appropriée, s'arrête le 18 juin, parce qu'il n'y a plus d'élection après. Ça peut prendre d'autres formes.
Par exemple ?
Moi, je prends le seul exemple qui me vient à l'esprit, il est un peu pauvre, j'en suis navré.
Il y a plus grand monde à dégager, là.
Non, mais vous pouvez...
En politique, je veux dire.
Oui, mais justement, ça peut sortir du champ politique et trouver d'autres zones d'expansion. Et puis, lorsqu'il y avait le mouvement Nuit Debout, on s'en est tantôt moqué, tantôt étonné, etc.
Intéressé.
C'est peut-être le prémisse de quelque chose qui va se développer, s'installer, poser des problèmes considérables ici ou là. Enfin, il peut y avoir dans le monde culturel, le monde associatif, le monde syndical, le monde académique, journalistique. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de mouvements, et je pense qu'on aurait tort. Ce mouvement a commencé au moins de manière visible en novembre 2016. On aurait tort de se dire que ça s'arrête le 18 juin parce qu'il n'y a plus d'élection après.
Françoise Fressot, juste j'ajoute un mot dans cette vague de dégagisme. Il y a des gens très bien, hein, qui ont été dégagés. Des députés qui faisaient parfaitement leur travail, qui étaient de grands spécialistes de tel ou tel domaine.
Absolument.
Il y a des gens formidables qui représentaient l'avenir de la politique, qui se sont fait sortir au nom de l'avenir de la politique.
Au nom de l'avenir de la politique, et puis je pense que tout le phénomène de fronde qui a marqué le quinquennat a été désastreux à la fois pour la majorité et pour les opposants, parce que en fait on est arrivé à une sorte de d'opposition larvée, mais pas véritablement, qui ne débouche pas sur des choses très très importantes et pas sur des querelles idéologiques très profondes. Et donc on a eu vraiment l'impression pendant 5 ans d'une autodestruction, et je pense que les députés que vous citez, que vous, vous évoquez, ils payent un peu ça, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas compris leur travail. Sur La République en marche, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point quand même Emmanuel Macron, depuis son installation à l'Élysée, ménage les syndicats. Ils ont été reçus, ils n'arrêtent pas d'être reçus en bilatéral. Ils essayent de remettre dans le jeu les syndicats, parce que je pense qu'ils sont conscients de ça. Hein. Je pense qu'ils ont analysé le fait qu'il peut y avoir une opposition dans la rue qui se substituerait à ce qui n'existe plus au Parlement, et qu'il est vraiment important de remettre dans le jeu les partenaires sociaux.
Laure Breton, puis Rémi Lefebvre.
On dit souvent que les cimetières sont pleins de gens qui se croient irremplaçables. Là, effectivement, peut-être que les cimetières politiques vont devenir vraiment plein à craquer de gens formidables. Ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que La République En Marche a fait quand même assez attention dans les investitures à couper des têtes bien faites et des têtes bien jeunes. Il y a toute une jeune génération, tout un mouvement de jeunes ministres, de députés qui étaient là que depuis un mandat, donc on ne peut pas leur opposer le fait que c'était des vieux éléphants, mais qui ont effectivement bien bossé. Le phénomène est visible aussi à droite. Je veux dire, par exemple, Gilles Boyer, il n'avait jamais été élu. Bon ben voilà, il n'entrera pas à l'Assemblée. Donc il y a une volonté, on sent peut-être une volonté de se dégager le terrain pour les 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais en tout cas de creuser un fossé générationnel. Les jeunes sont plutôt du côté d'En Marche. En tout cas, les jeunes de Macron veulent rentrer au Parlement, et on a coupé,
nettoyé le reste. Rémi Lefebvre.
Oui, bah ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une telle vague nationale que finalement les considérations de bilan législatif des députés sortants, d'ancrage local, ont littéralement été écrasées par la vague nationale. Donc du coup, ça interroge aussi sur au fond le travail politique, la légitimité du travail politique. Concrètement, est-ce que ces nouveaux députés En Marche vont avoir intérêt finalement à investir dans le local, dans la mesure où le local, l'ancrage local, ça a eu payé, ça ne marche plus véritablement. Alors sur ce qui a été dit sur les syndicats, oui, il ménage les syndicats, mais enfin, il a quand même eu cette confession en disant qu'il n'avait rien dit aux syndicats et que c'est pour ça que ça s'était bien passé. Je suis pas sûr que dans un mois, quand les ordonnances vont sortir, les syndicats seront tout à fait sur le même avis. Et puis sur les frondeurs qui étaient l'épisode des frondeurs qui a été désastreux, je suis un peu réservé parce qu'on peut pas dire d'un côté que le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement, et puis blâmer des députés qui n'ont fait que se référer au mandat électoral qui avait été donné à François Hollande en 2012. Alors peut-être, par contre, ce qu'on peut pointer, c'est qu'effectivement, les frondeurs n'ont pas été cohérents, dans la mesure où, compte tenu de ces désaccords, ils auraient dû aller jusqu'au bout dans leur motion de censure, s'ils avaient pu, ou sortir du jeu. Voilà.
Bah là, ils sont sortis du jeu, pour l'essentiel. Hein.
Eh oui, ça c'est sûr.
On retourne au standard. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Bienvenue.
J'habite Caluire-et-Cuire, belle commune et riche commune lyonnaise.
Très belle.
Le baron local, député-maire, président des LR, chef d'entreprise, s'est fait exploser par une jeune marcheuse. J'espère que les nouveaux députés vont savoir expliquer leur action, sinon ils risquent, comme les anciens, de devenir des godillots ou des lèche-bottes. J'ajoute, sans mauvais jeu de mots, que je porte à droite.
Merci beaucoup Thierry. Dominique Régnier, comment dire, quelqu'un de très expérimenté se fait sortir
dans l'indifférenciation en fait de la sanction, que ce soit les sortants ou l'opposition, la gauche ou la droite, les expérimentés ou pas, les compétents ou les désinvoltes. Je pense qu'il y a aussi quand même un geste à essayer de saisir, qui est que on a voulu frapper aussi des organisations politiques auxquelles on fait quand même le reproche, même si c'est confus. On n'est pas tous politologues, mais enfin quand même, ce sont des partis qui se sont pas occupés des Français, qui sont occupés beaucoup d'eux-mêmes. Moi, ça me frappe de voir, par exemple, si on prend le cas de la droite, s'il en a été question, pendant 5 ans dans l'opposition, même si c'est un peu c'était un peu trop mécanique d'imaginer le retour au pouvoir parce que c'était justement l'opposition et que le tic-tac, c'est ça. Malgré tout, pendant 5 ans, rien n'a été préparé, sinon une opposition interne pour savoir qui allait gagner la présidentielle. Avec une multiplication de projets, pas vraiment un programme, pas une réflexion de fond, pas plus qu'au PS en réalité. D'ailleurs, la preuve, la révolution libérale que la droite pouvait faire, c'est Macron qui est en train de la faire. Donc, c'est tout à fait saisissant. Ce faisant, pendant 5 ans, ils ont montré qu'ils avaient une passion pour les affaires de parti, qui sont quand même les leurs et pas celles des autres. Ils ont tourné le dos aux Français, mais au moins leur famille à eux, littéralement. Ils s'en sont pas occupés du tout. Et là, tout d'un coup, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est n'envoyez pas une assemblée monocolore. Ce que d'ailleurs dit exactement le Front National, le PS, enfin, c'est indéterminé. Donc il y a quand même là le prix à payer de tout cela, et je pense que dans le geste d'indifférenciation qui contient beaucoup d'injustice, ça a été dit et c'est très vrai, il y a cette idée que tant pis, on va couper net, et il y aura des injustices, mais grosso modo, on a raison.
Laure Breton.
La meilleure preuve que La République En Marche ratisse extrêmement large, c'est quand on regarde Paris, on a Claude Goasguen, qui est la droite dure, dans le 16e, un bastion, un fief, une circonscription en or, qui est mis en ballottage défavorable par une marcheuse. Et de l'autre côté, on a Jean-Christophe Cambadélis dans une circonscription totalement acquise à la gauche qui est balayée dès le premier tour dans le 19e arrondissement.
Françoise Fressoze.
Non, j'ai rien à ajouter.
Eh bien, écoutez, cette retenue vous honore. Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, bah, de toute façon, effectivement, les partis payent cash. Hein, on peut pas dire que ces dernières années, ils ont donné un beau spectacle, repliés sur leur lutte. Ils ont cru s'en sortir avec des primaires qui ont tourné au fiasco dans les deux parties où elles ont été organisées. Donc effectivement, pour l'instant, En Marche prospère sur ce discrédit du fait partisan. Maintenant, évidemment, la question c'est de savoir quel fait partisan En Marche va mettre en place. C'est-à-dire que c'est évidemment simple de critiquer les partis quand on est outsider, quand on rentre dans le jeu politique et qu'on risque la normalisation organisationnelle et qu'on s'expose aux luttes de pouvoir, à l'organisation du travail parlementaire, aux prochaines échéances électorales, puisque le dégagisme, il va peut-être concerner les futures élections locales. Et il y a beaucoup de militants d'En Marche qui veulent prendre des positions locales, qui veulent diriger des collectivités territoriales. Et donc, on va voir un petit peu, finalement, si faire partie En Marche, c'est faire partie de manière aussi radicalement différente que les partis établis. C'est compliqué. Hein. Roberto Michels, le penseur élitiste, parlait de la loi des reins de l'oligarchie. On va voir si En Marche échappe aux lois des reins des partis politiques.
Dominique Régnier.
Ça, on peut déjà dire que ils n'échapperont pas à la loi des reins de l'oligarchie. On a vu la pyramide. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'En Marche aujourd'hui, et c'est ça qui fait la singularité, je trouve, moi, c'est pas la majorité écrasante. Je lisais dans les Décodeurs du Monde là que c'était le groupe qui avait la plus grosse majorité depuis 1958. Mais en fait, la vraie singularité, je crois, c'est que c'est un quasi-parti. C'est même pas encore un parti. C'est une association d'il y a peu, avec un conseil d'administration quand même. Faut le faire. Hein. Et donc,
on appellera ça un bureau politique dans trois semaines, un mois. Mais,
tant qu'ils n'ont pas 450 parlementaires, c'est énorme au Parlement. Mais dans la France, c'est pas suffisant. Bien sûr, c'est très bien, c'est une réussite formidable, etc. Mais tant qu'ils n'ont pas ces maires, ces conseillers départementaux, municipaux, régionaux, etc., ça sera pas encore tout à fait un parti. C'est ce que disait Rémi Lefebvre, je suis d'accord avec ça. C'est un boulot de faire ça. Et ils vont le faire dans un cycle qui sera celui du jugement de leur action. Donc il y a quand même là des éléments qui peuvent entrer en contradiction. C'est un parti champignon hein, qui apparaît comme ça. Il y en a quelques-uns en Europe qui apparaissent. Et ça peut aussi bien ne pas prendre. Hein. Là, il y a la dynamique extraordinaire, tout à fait étonnante, qui est très liée à l'effondrement des concurrents.
Mais vous pensez que ce mouvement veut devenir un parti?
Ah, c'est très clair, oui, je pense que ça veut devenir un parti. Et je crois encore, je le redis, il n'y a aucune raison de penser que c'est la fin d'un mouvement. Il faut plutôt se dire que c'est sans doute le début de quelque chose.
Françoise Fressoze veut parler.
Oui, c'est juste pour dire que toute cette non, mais ce qui est très intéressant, c'est que toute cette transformation politique, elle est quand même faite aussi pour transformer le visage de la France. Et quand vous entendez Macron, c'est à la fois la révolution sociale libérale et c'est aussi une nouvelle génération, c'est-à-dire un changement de génération, un appel aux jeunes. Donc, c'est à cette aune qu'il faudra voir s'il réussit ou pas. Et En Marche, c'est l'instrument de ça. Mais vraiment, la visée, c'est transformer le pays.
Rémi Lefebvre à Lille.
Oui, bah j'ai pas grand chose à ajouter.
Voilà. Ah bah écoutez, c'est formidable cette retenue. La parole à Yann qui nous appelle de Tours. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Eh ben écoutez, déjà vous féliciter pour vos émissions.
Merci. Merci.
Et puis je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit déjà. Hein. Pour moi, les partis anciens tels qu'on les a connus sont morts et le resteront. Et que je pense qu'on est au début d'une nouvelle transformation de l'initiative politique de l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire que aujourd'hui, tel que Mélenchon a voulu le faire en créant des groupes de discussion, de rassembler différents corps sociaux autour de certaines idées, je pense que le président l'a fait aussi à sa façon, tout en ayant quand même ce côté un peu président bonapartiste, comme vous l'avez dit. Mais je crois que voilà, on est au début et on est à la fin d'un cycle et on est au début d'un nouveau. Mmh. Et je pense que il faut leur laisser une chance à ce que ça crée une émulsion et que ça amène de plus en plus de gens à se poser la question de qu'est-ce que la politique et comment on peut faire évoluer les choses dans cette France qui aujourd'hui a besoin de renouveau.
Merci beaucoup Yann pour cette intervention sur laquelle va se clore ce téléphone sonne. Il faudra donc, si j'ai bien compris Yann, réfléchir au bonapartisme rhizomatique, hein, c'est ça, de la verticalité horizontalisée deleuzien. Voilà, bonapartisme deleuzien, ça ce sera pour un autre téléphone sonne. Merci amis auditeurs d'Inter, merci Dominique Régnier, Laure Breton, Françoise Fressoz et Rémi Lefebvre.